Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Je dis que ce sera tranquille. Nous avons de bonnes mesures de police. Et nous sommes plutôt des gens calmes. Ça va pacifier l'ambiance.
Tranquille donc et sans hooligan, cette Coupe du Monde, c'est l'une des craintes. En tout cas, souvenez-vous des Anglais à Marseille pendant l'Euro il y a 2 ans. Mais la Russie a mis beaucoup de moyens pour lutter contre ceux que le foot rend fou ou ceux qui profitent du foot pour devenir fou. C'est l'escale reportage d'Un jour dans le monde grâce à Claude Brouillot dans un instant. Florence Paracolo se transforme sous les radars, sous la pelouse ce soir en vous racontant des histoires de foot que vous n'avez lues nulle part ailleurs. Nous allons au Ghana, en Iran ou en Russie ce soir. 18h50, la carte blanche des correspondants de France Inter avec une équipe d'Allemagne tenante du titre. Vous le savez, un climat cependant qui a beaucoup changé dans le pays. Du coup, vous verrez que les joueurs sont aujourd'hui perçus très différemment. On parle aussi d'un sondage et ça n'a rien à voir entre Bruxelles et Strasbourg. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger au Nicaragua. Mais que se passe-t-il dans ce pays en grève générale qui a vu mourir dans des manifestations ces derniers temps 131 personnes. Mais d'abord, direction l'Islande. L'Islande et ses harpons à baleine. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Vès. Un jour dans le monde.
Quelle drôle d'idée quand même de la part des Islandais qui depuis dimanche, depuis le 10, peuvent reprendre la chasse à la baleine. Une société spécialisée dans ce genre de prise va pouvoir repartir. On avait presque oublié qu'elle existait en fait cette pêche, ou quasiment. Vous verrez d'ailleurs que les raisons pour lesquelles cette firme islandaise reprend large pour 190 mammifères autorisés sont parfois un peu spéciales. Bonsoir Olivier Adam.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des baleines, plus spécifiquement d'ailleurs de bioacoustique, professeur des universités, notamment à Paris-Sud-Orsay. Puis dans un instant, on aura au téléphone Lamia Essem-Lali, qui est présidente de Sea Shepherd France, une ONG de défense des océans qui a beaucoup œuvré, notamment pour la protection des baleines. Je le disais, Olivier Adam, on avait un peu oublié, et moi, du haut de ma naïveté, je pensais même que c'était interdit, et définitivement depuis longtemps, la chasse à la baleine.
Alors, c'est interdit depuis 1986 par un moratoire international, donc on n'a plus le droit de chasser les grandes baleines. Après, certains pays ont aménagé un petit peu ce moratoire, comme le Japon par exemple.
Certains pays, c'est-à-dire ceux qui ont des baleines à proximité
Des pays qui en fait se sont trompés de siècle, hein, qui ne sont plus en 2018, qui sont encore en 1918. Donc il y a le Japon, la Norvège, l'Islande principalement. Et du coup, c'est étonnant. Alors la Norvège, ils l'ont fait, l'Islande, ils l'ont fait. Là, ils se sont juste arrêtés en 2016 et ils reprendront cette année. Donc ce n'est pas une surprise. Ce qui est une surprise, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'une baleine vivante est plus rentable économiquement qu'une baleine morte. En fait, on voit bien que c'est un problème économique. On a beau parler de l'écologie, on a beau parler de l'environnement, on a du mal à avancer. Ça avance, hein. Je suis optimiste sur le truc, mais ça avance très lentement. Par contre, sur la chasse, on explique que, par exemple, la chasse à but scientifique n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tuer des baleines pour les étudier.
C'est ce que dit le Japon, par exemple. C'est l'un des arguments du Japon. Le Japon dit, nous, on pêche à fin scientifique. Ça veut dire quoi, pêcher à des fins scientifiques, honnêtement?
En fait, pour pouvoir étudier des espèces animales, certains tuent et regardent ce qu'il y a. Par exemple, on veut faire de l'anatomie, on est obligé de tuer. Enfin, on est obligé, en tout cas, d'avoir des animaux morts. Donc, c'est sous ce prétexte-là que le Japon a fait de la chasse à la baleine. Sauf que, dans les conférences internationales, on a montré, notamment Phil Clapham, qui est le patron d'un laboratoire extrêmement connu aux États-Unis, a montré qu'il n'y avait aucun résultat qui sortait de ces chasses à la baleine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la justice internationale leur avait dit... Écoutez, votre excuse de chasse à la baleine, une chasse scientifique, n'existe pas.
Et l'excuse de l'Islande, c'est quoi, en fait?
Alors, c'est traditionnel.
La tradition.
Voilà, en fait, c'est des choses ancestrales. C'est pour ça que je dis qu'ils se trompent de siècle, parce qu'en fait, on peut faire référence à des traditions, on peut faire référence à un patrimoine culturel, etc. Mais après, on peut l'adapter avec le siècle dans lequel on vit.
Parce que, pardon de la question encore une fois naïve, mais qu'est-ce qu'ils en font? Parce que il paraît effectivement qu'on en mange de moins en moins, y compris dans des pays où effectivement culinairement on l'a fait à une période. Qu'est-ce qu'on en fait finalement de ces baleines?
Ils la vendent au Japon. D'accord. En fait, au Japon, il y a quand même une tradition culinaire autour de la viande de baleine. Bon, moi, j'en ai jamais mangé. Mais je ne peux pas vous dire si c'est bon.
Qui a beaucoup baissé, paraît-il.
Qui a beaucoup baissé, exactement. Parce que il y a beaucoup aussi de communication dessus. Les cétacés sont les mammifères supérieurs en haut de la chaîne alimentaire. Donc généralement, ils ont du plomb. Enfin, ils ont des métaux lourds dedans. Donc c'est pas forcément très bon de les manger.
Qu'est-ce qu'on pêche avant qu'on aille voir en Islande justement comment ça se passe? C'est quel type de baleine en fait? Parce qu'il y en a différentes sortes. Est-ce que il y a des très grosses notamment, donc le rorqual.
Donc la baleine bleue c'est le plus grand cétacé. Donc là il est plus pêché parce que par la bonne raison c'est qu'il y en a plus.
D'accord.
Donc ça va plus vite. En Antarctique par exemple, il y a plus que 1% de la population originale, c'est-à-dire qu'ils ont tout exterminé. Et donc là, il ne la pêche plus parce qu'il ne la trouve plus. Sinon, il continuerait à la pêcher. Ce qui est donc pathétique parce qu'on ne se rend pas compte de l'environnement marin, on ne se rend pas compte des écosystèmes. Donc là, actuellement, ce qu'ils sont en train de chasser, c'est des rorquals communs et des petits rorquals. Bon, les petits rorquals...
Ils ne sont pas en voie de disparition.
Voilà, c'est ça. Donc les petits rorquals... Donc, ils sont, tous les cétacés sont sur la liste rouge de l'IUCN. Donc ça veut dire qu'ils sont potentiellement en danger. Mais c'est vrai que le petit rorqual, il est moins préoccupant que les autres cétacés.
Vous allez rester avec nous, Olivier Adam. Je voudrais vous emmener jusque là-bas, vous emmener en Islande, voir comment ça se prépare en fait, ces départs de bateaux grâce à Jérémy Richard.
Les derniers coups de peinture se sont achevés la semaine dernière. Après un peu plus d'un mois en cale sèche dans le port de Reykjavik, les deux navires de Kvalur ont été remis à l'eau. La firme islandaise va reprendre le large, cap à l'ouest, d'ici peu pour chasser le rorqual commun. Le deuxième plus grand mammifère de la planète après la baleine bleue est en danger depuis 1996, mais Christian Lofton, directeur de Kvalur depuis près de 45 ans, le conteste.
Dans la région où nous chassons, l'estimation du stock est d'environ 40 000 cétacés et nous en attrapons 160 par an. Si leur population était vraiment très faible, nous ne chasserions pas la baleine. Mais avec plus de 40 000 rorquals communs en mer, il est improbable de conduire à l'extinction de l'espèce en chassant 160 animaux par an.
Le PDG de 75 ans s'appuie sur les données actualisées en 2015 de la Commission des mammifères marins d'Atlantique Nord, celle de l'Union internationale pour la conservation de la nature datant de 2001. Les quotas autorisent jusqu'à 161 prises cette année contre 150 en 2017. Au-delà de la cruauté de l'activité que dénonce le Fonds international pour la protection des animaux, c'est aussi sa contradiction avec l'observation des baleines, une des activités préférées des touristes. Ils ont été près de 360 000 en 2016 à partir en mer pour tenter d'apercevoir les cétacés. Cela représente une centaine de millions d'euros de revenus par an, contre à peine quelques dizaines de millions pour la vente des produits de la chasse. Sigurd Steinmarsson est le représentant islandais de l'ONG.
La chasse à la baleine, particulièrement celle au rorqual commun, une espèce menacée, ne se marie absolument pas avec l'observation des baleines pour des raisons évidentes. C'est donc préjudiciable pour la réputation de l'Islande et son image de destination où l'on peut découvrir la nature à l'état sauvage.
La chasse à la baleine a de moins en moins de support auprès des locaux. Un sondage publié fin mai par l'Institut MMR indique que 34% des Islandais y sont favorables, contre 60% il y a 5 ans. Dommageable pour la réputation de l'île volcanique, Maria Gunnarsdottir est chargée des questions touristiques chez Islandstova, société semi-gouvernementale qui promeut l'Islande à l'international.
Nous n'avons pas d'études qui démontrent qu'il y a un impact ou non de cette activité sur l'image du pays. C'est ce sur quoi le ministère des Pêches va donc travailler, le lancement d'une étude sur les effets de la chasse à la baleine. Et je crois que c'est important pour prendre les bonnes décisions de s'appuyer sur des faits précis.
Interrogée sur cette question au Parlement début mai, la Première ministre Katrín Jakobsdóttir a indiqué qu'une décision serait prise sur la continuité ou non de cette activité en Islande d'ici l'automne prochain.
Un reportage signé Jérémy Richard en Islande pour Un jour dans le monde. Bonjour Lamia Issemlali.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Sea Shepherd, l'ONG de défense des océans. Vous êtes très actif autour des baleines. C'est vous qui aviez arraché notamment des réductions de quotas, qui avez même ferraillé au sens propre contre les Japonais à une certaine époque. C'est quoi votre levier, Lamia Issemlali, contre un pays comme l'Islande? Est-ce que vous avez un levier pour faire en sorte qu'ils ne reprennent pas cette pêche?
Sur le cas islandais, très concrètement, aujourd'hui, la firme qui reprend la chasse dispose de deux bateaux. Elle en avait quatre. On en a coulé deux en 1986. Les deux qui reprennent la chasse aujourd'hui, ce sont deux bateaux qu'on n'a pas coulés parce qu'il y avait un garde à bord et on n'a pas voulu prendre de risque de blesser qui que ce soit. Mais malheureusement, oui, ce sont les deux rescapés de notre opération de 1986. Donc aujourd'hui, c'est compliqué puisqu'ils chassent en eau territoriale. Contrairement au Japon, par exemple, qui chasse en plein sanctuaire antarctique. Donc, mener une opération dans les eaux territoriales contre l'Islande, ça serait compliqué puisque sans doute qu'ils mobiliseraient leur navire militaire contre nous. Donc, il reste surtout le lobbying.
Et peut-être jouer sur la population, non? Parce qu'on entendait dans le reportage l'impact que ça peut avoir sur l'image du pays. C'est peut-être quelque chose sur lequel on peut jouer, non?
Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de touristes, en fait, qui vont en Islande et qui mangent la viande de baleine parce que c'est exotique. Il y a même des cas de touristes qui vont voir les baleines
et qu'ils les mangent aussi.
Forcément d'en manger ensuite au restaurant. Donc, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire, surtout par rapport aux touristes qui visitent l'Islande.
Est-ce que les chiffres qu'on avançait dans le reportage, qu'avançait le capitaine du bateau, disaient en gros, il y a 40 000 cétacés, parlaient des rorquals communs, et nous, on n'empêche que 160, donc franchement, on met personne en péril. Est-ce que ces chiffres-là vous paraissent des chiffres justes?
Alors peut-être qu'ils sont justes, mais 40 000, ça semble beaucoup, mais c'est infiniment moins que la population originelle de Rorqual. Et ce qu'il faut savoir, c'est que étant effectivement au sommet de la chaîne alimentaire, ils sont particulièrement sensibles à la pollution, ils sont sensibles à la surpêche, à l'acidification des océans, au réchauffement climatique, les captures accidentelles. Donc il y a tellement de menaces autour de ces animaux sur lesquels il est difficile d'agir qu'on ne peut pas encore aujourd'hui, au XXIe siècle, accepter de les tuer sciemment.
L'ami Aïssem Lali, restez avec nous. Olivier Adam, sur ce chiffre, notamment.
Oui, 700 000 la population au départ originale, plus que 35 000 maintenant. Demandez à un capitaine de pêche ce qu'il pense de la régulation de la pêche, il va toujours vous dire, nous on peut le faire, il n'y a pas de problème pour les risques de la population. Il ne tient absolument pas compte des écosystèmes, absolument pas compte de l'environnement marin. Il nie les lois de protection des animaux, etc. Donc c'est pas acceptable.
Et les 160 autorisés, est-ce que c'est réellement contrôlé d'ailleurs ou pas? Je veux dire, s'il en tue 200, est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on le sait ou pas?
Il y a des observateurs, normalement, qui doivent. Il doit y avoir un cahier de prélèvement des cétacés. Oui.
J'ai une dernière question pour vous, l'ami Aïssem Lali. On dit par ailleurs que la chasse à la baleine est particulièrement cruelle. Ça se passe toujours au harpon, en fait, réellement, avec des animaux qui sont au final épuisés au bout d'un temps qui est extrêmement long, en fait.
Mais c'est ça, ce sont des animaux qui sont extrêmement grands. Il faut entre une demi-heure, voire une heure, pour tuer une baleine. Tuer une baleine, c'est des conditions qui seraient interdites dans les abattoirs, par exemple. On ne peut pas tuer une baleine sans la faire souffrir d'une façon difficilement imaginable. Donc c'est de facto cruel. On peut pas en échapper. On peut pas tuer une baleine rapidement.
Merci beaucoup, l'ami Aïssem Lali de l'ONG Sea Shepherd. Olivier Adam, quand on parle de chiffres qu'on avait tout à l'heure, qui dit en gros que 60% de la population il y a 5 ans était toujours d'accord avec ce genre de chasse parce que c'était effectivement quelque chose de traditionnel. On est redescendu à 34. Ça veut dire qu'il est quand même en train de se passer des choses dans des pays comme cela. Est-ce que ce sont des chiffres qu'on retrouve autant en Islande qu'en Norvège qu'au Japon ou pas?
Oui, on les retrouve partout parce que on a des programmes d'éducation maintenant auprès des jeunes qui sont de plus en plus orientés vers l'environnement, vers l'écologie. Ils sont conscients de ce qui se passe. Ils ne vont pas du tout refaire ce que les adultes ou nos grands-parents faisaient et actuellement. Donc ça, on est clair que maintenant, on est plus branché sur le tourisme bleu, par exemple, à la découverte des milieux marins, etc., et pas pouvoir du sang dans la mer.
Et en même temps, comme le disait l'ami Aïssem Lali, le grand paradoxe, c'est qu'on va voir des baleines, on trouve ça formidable, et le soir, on en mange. C'est quand même assez terrible, non?
Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout le monde a son rôle à jouer. Moi, je suis profondément optimiste. On a des politiques qui prennent des décisions pour la création d'espaces protégés, des aires marines protégées, par exemple, pour intervenir auprès de l'ONU, à l'ONU pour la commission intergouvernementale des océans. Là, on voit par exemple des ONG qui sont prêts à prendre des risques énormes pour pouvoir aller défendre les cétacés là où normalement c'est nos militaires qui devraient s'interposer pour éviter ce genre de massacre. Les scientifiques ont un rôle à jouer, les artistes ont un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer dans vos choix, dans vos choix politiques et dans vos choix de vie. Donc en fait, on voit bien qu'on va tous vers la même direction et que ce type de décision sur la reprise de la chasse est juste obsolète. C'est des choses qu'on aurait dû faire en 1918 et pas en 2018. Il faut répéter les années au fur et à mesure dans vos journaux.
Une toute dernière chose, est-ce qu'on se cache derrière des... Ça a été le cas pendant une période, oui, mais on crée un certain nombre de remèdes ou de médicaments avec les baleines, etc. Ou est-ce que c'est intégralement fini, tout ça?
Voilà, tout ça, c'est intégralement fini. Il y a des travaux de scientifiques, on peut y faire référence. Moi, je viens de finir l'organisation d'une conférence à Jussieu sur le domaine. Tout le monde est de plus en plus conscient de ce qu'on fait sur... Les océans prennent très cher en 2018, et pas uniquement sur les baleines, d'une façon assez générale. La surpêche, par exemple, il vide les océans. Donc, à un moment donné, tout ça, on le sait, il suffit d'aller sur Google pour le savoir, plus personne ne peut se cacher. Et donc, on voit bien que le travail des scientifiques, par exemple, c'est de donner de la connaissance, de mettre la connaissance à disposition du public et des politiques, et tout le monde va prendre ses responsabilités un jour ou l'autre.
Olivier Adam, merci beaucoup, merci pour votre expertise, merci à l'ami Aïssem Lali aussi, qu'on aille au téléphone il y a un instant.
France Inter, Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde en Russie avec ceux qui sont censés lutter contre les hooligans, la plaie du football. Les Russes, on le sent chaud, c'est vrai, mais pas question de voir se reproduire des scènes comme celles qu'on avait vues. C'était avec des Anglais, notamment à Marseille pendant l'Euro. À suivre aussi sous les radars, Florence Paracolos, sous la pelouse plutôt ce soir. On va parler de crampons iraniens, de racisme et de pots de vin au Ghana. La carte blanche des correspondants de France Inter, c'est à Berlin et à Bruxelles ce soir. Et puis l'édito d'Anthony Bélanger. Qu'est-ce qui se passe au Nicaragua en ce moment? 131 morts depuis quelques semaines. Et une grève générale qui a lieu aujourd'hui même. Le tour du monde continue, ça ne va pas nous rajeunir. California Dream, de Mamas and de Papas.
Passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher liked to call. He knows I'm gonna stay.
On a Winter's Day, Mamas and the Papas, California Dream sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence Paracuello sous les radars, transformée en sous la pelouse ou dans les petits filets, c'est comme vous voudrez pour ce soir. Après tout, si c'est pas aujourd'hui qu'on parle de foot, hein. Voilà ce qui vous a en revanche totalement échappé. On commence par un documentaire qui est en train de faire vaciller le foot ouest-africain, Florence.
Et oui, le film est sorti la semaine dernière au Ghana. C'est une enquête réalisée par un journaliste d'investigation dont personne ne connaît le visage. Il s'appelle Anas et il a piégé des dizaines d'arbitres du championnat ghanéen et des grands championnats d'Afrique. On les voit qui acceptent des cadeaux et de l'argent pour faire gagner une équipe, 100 dollars et une chèvre. Et c'est l'équipe d'Accra qui gagnera au pénalty et contre toute attente un derby décisif, 700 dollars pour favoriser l'équipe nationale du Ghana contre l'Algérie. Le film projeté sur grand écran dans la capitale ghanéenne a écœuré tous ceux qui l'ont vu. Moi j'ai l'habitude de parier, de dépenser de l'argent pour parier. Et tous ces arbitres qui prenaient des pots de vin, ils ont récupéré mon argent, dit cet homme. Des arbitres ivoiriens, gambiens, kényans se sont fait piéger. Un arbitre kényan d'ailleurs a dû se retirer de la Coupe du Monde de Russie où il aurait dû être assistant. Et au Ghana, la fédération dans son ensemble a explosé. Elle sera dissoute après la démission de son président, piégée par une proposition à 4,5 millions de dollars d'un faux investisseur du Moyen-Orient qui promettait de sponsoriser le foot ghanéen.
Allez, la suite, ce sont des footballeurs sans crampons.
Les Iraniens, figurez-vous, devaient porter des chaussures Nike pour ce mondial, mais Donald Trump est passé par là en se retirant de l'accord sur le nucléaire iranien et l'équipementier a renoncé puisqu'il n'est pas question de travailler avec des Iraniens sous peine de sanctions, ce que Nike avait pourtant assumé pendant la dernière Coupe du Monde en 2014, mais probablement que l'effet Trump a été plus dissuasif cette fois. N'empêche que cette annonce de Nike la semaine dernière, donc très tardivement, a perturbé l'équipe d'Iran qui joue son premier match demain contre le Maroc. Les joueurs ont dû trouver des plans B, aller s'acheter eux-mêmes des crampons dans des magasins russes, ou bien, selon le site d'info américain ESPN, demander à des joueurs de leur connaissance non iraniens, de leur prêter des chaussures.
Voilà, ben voilà, comme ça on saura dire combien tu chausses en russe, en iranien, etc. Russie 2018, c'est aussi cette députée russe, tenez-vous bien, qui demande à ses concitoyens de ne pas coucher avec des étrangers non blancs.
Oui, et même à ses concitoyennes, plus précisément, Tamara Plietnova, présidente du comité des familles, des femmes et des enfants, a très sérieusement mis en garde les femmes russes hier, parce qu'elles pourraient devenir mères célibataires, et pire que tout, mères d'enfants métis, voués à souffrir toute leur vie. Et la députée de rappeler le précédent des enfants des Jeux Olympiques de 1980, il y a aussi eu ceux du Festival de la Genève de Khrouchtchev en 57. Sauf que manifestement, c'est pas du tout l'image que Vladimir Poutine voudrait donner de son pays. Le Kremlin réplique aujourd'hui sèchement que les femmes russes, les meilleures du monde, font bien ce qu'elles veulent.
Florence, hier, vous nous parliez de ces fameux gadgets espions qui sont parfois distribués à la presse et aux diplomates pendant les sommets internationaux. Même esprit, les États-Unis lancent une mise en garde au cours de ce mondial russe.
Mise en garde signée du directeur du Centre National de Sécurité et de Contre-espionnage. C'est pas n'importe qui. Attention à vos téléphones, à vos ordinateurs et à tous vos gadgets électroniques pendant votre séjour, dit-il. Toutes les données qui s'y trouvent pourront être consultées par le gouvernement russe ou des cybercriminels. Et ne partez pas du principe que vous êtes trop insignifiant pour être visé. Alors, quelles sont les solutions? Il n'y a pas grand-chose à faire à part ne pas emporter son téléphone ou son ordinateur, ce qui n'est pas très pratique quand on va travailler notamment autour du mondial. L'autre conseil, c'est de retirer les batteries des appareils quand on ne s'en sert pas. Là aussi, ça paraît assez compliqué.
Et puis un coup de génie, pour terminer, un coup de génie ou un coup de pub ou un coup d'on ne sait pas très bien quoi en fait. Un site allemand de radio nous promet un stylo magique pour suivre le mondial en toute discrétion. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, le site radio.net s'est payé les services d'Avas pour une formidable publicité et un super gadget s'il existe vraiment. L'idée est simple. Comment suivre les matchs en continuant à travailler ou en faisant acte de présence, au moins?
There are only two options.
Il y a seulement deux options.
Go to work,
aller travailler et louper ces grands moments du foot.
Scheiße. Watch football.
Regardez le foot et louper toutes ces réunions importantes.
Also scheiße.
Eh oui, scheiße, mais heureusement,
Radio.net presents The Football Pen. Turning business
et
days
oui,
into
le Football Pen, gadget révolutionnaire qui prend la forme d'un stylo, comme son nom l'indique, relié en Bluetooth à la radio sur votre téléphone. Il faut le mettre dans sa bouche, entre ses dents, comme si on était hyper concentré sur le PowerPoint de la réunion. Et la radio nous promet, radio.net nous promet que le son du match de la radio va se diffuser par voie osseuse jusqu'à notre oreille interne,
Florence,
en passant par la mâchoire, ce qui fait que personne n'entendrait rien autour. Si ça existe, et c'est pas complètement improbable, c'est absolument génial. Radio.net, qui permet d'écouter des radios du monde entier, promet de faire gagner de ses stylos sur son site. Je n'ai trouvé personne, il est vrai, pour l'instant, qui ait vraiment essayé ce gadget, si j'en trouve un.
Ah bah vous êtes gentil, puis si vous trouvez le stylo, surtout, vous venez nous montrer comment ça marche.
Oui.
Pour voir si je peux m'entendre le
stylo,
dans les dents.
Oui.
Je trouve ça bizarre. Allez Florence, merci.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Gros doute sur le stylo, mais on va rester dans l'ambiance Coupe du Monde. C'est jour d'ouverture, donc vous le savez, le premier match, il est toujours en cours. Et pendant que les supporters et les autres sont toujours en train d'arriver, 600 000 supporters, 31 pays qualifiés, 11 villes hôtes, il y a une vraie question qui se pose à ce mondial. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Correspondant de France Inter en Russie. Claude, le vrai problème, ce sont les hooligans. Les Russes, on le sait, on le sent chaud. Ils ne veulent pas non plus qu'on revoie des scènes qu'on avait déjà vues, souvenez-vous, il y a deux ans, pendant l'Euro, ça se passait à Marseille avec les Anglais. Officiellement, le problème est réglé, c'est ce que disent les officiels. Alors Claude, question, est-ce qu'on est vraiment certain de ça ou pas?
C'était il y a une semaine à Moscou, dans le troisième stade de la ville, celui du CSKA. La Russie, pour son dernier match de préparation, affronte la Turquie. 30 000 spectateurs soutiennent la sélection russe, la Sbornaya, comme on l'appelle. À 71 ans, Valérie est un inconditionnel. Rien ne l'arrête, ni les mauvais résultats de la sélection, ni la crainte de mouvements de foule, encore moins les débordements de supporters extrémistes, qu'ils soient russes ou étrangers.
Я думаю, у нас достаточно силы, народ такой, что не дадут.
Je crois qu'on a assez de moyens et on ne laissera pas agir ceux qui sont agressifs. Je dis que ce sera tranquille. Nous avons de bonnes mesures de police. Et nous sommes plutôt des gens calmes. Ça va pacifier l'ambiance.
Un peu plus tôt dans la semaine, nous avons rencontré Artyom, 27 ans, consultant, qui était à Marseille en juin 2016, à l'Euro, notamment lors des bagarres entre supporters russes et anglais. Un tel scénario, pendant le mondial en Russie, est pour lui tout simplement impensable.
Pourquoi,
à mon avis, ça ne peut pas se produire maintenant? Parce que la Russie a des traditions d'accueil importantes et les gens qui ont participé aux bagarres à Marseille, d'après ce que je sais avec mes camarades, ce ne sont pas des gens bêtes. Ils savent qu'il ne faut pas provoquer, car ici, la police travaille différemment.
Mais du coup, Claude, pardon, est-ce qu'on est certain que les officiels ont effectivement fait le ménage, donc dans les rangs des supporters les plus ultras?
Oui, la seule certitude dont on dispose aujourd'hui remonte à l'an dernier. Il n'y avait eu aucun incident majeur, par exemple, lors de la Coupe des Confédérations, sorte de mini-coupe du monde avec 8 équipes dont la Russie. À l'époque, les ultras russes les plus virulents avaient été interpellés pour certains et interdits de stade pour d'autres. À tel point que pendant la Coupe du Monde actuelle, les plus fortunés d'entre eux ont préféré prendre les devants et quitter la Russie le temps de la compétition. Du coup, il n'y a aucune appréhension chez Alex Smertin, ancien joueur russe de Bordeaux, ambassadeur du fair-play à la FIFA, et un peu agacé lorsqu'on lui demande encore s'il y a des risques de nouvelles confrontations entre hooligans russes et anglais par exemple, car pour lui, le travail a été fait.
On a bien travaillé, mais si quelqu'un qui fait ça, voilà, bien sûr c'est moi qui est responsable aussi. Donc c'est pour ça que je connais mon pays. Qu'est-ce que vous entendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez que je garantis? Les Anglais, et alors, je vois pas de problème.
Il y a eu Marseille quand même. Marseille, c'était un problème.
Je sais pas, Dieu.
Côté anglais maintenant, Chris Waddle, ancien joueur de l'OM et aujourd'hui consultant pour la BBC, pense également que tout sera calme. Il est certain, par exemple, que les supporters anglais se feront le plus discret possible en Russie.
Oui, ce serait super que tout le monde se serre la main, s'entende bien et prenne une bière. S'il y a des problèmes, ce ne sera pas seulement le fait des Anglais. On blâme toujours l'Angleterre, mais la Russie a aussi un problème avec ses hooligans. La Croatie, la Serbie, la Pologne, l'Allemagne, tout le monde a des problèmes. Ce n'est pas que l'Angleterre. On espère que tout le monde viendra pour profiter du tournoi. La Russie est un pays agréable, un endroit où il fait bon vivre. Les supporters anglais sont très méfiants à l'idée de venir en Russie. Ils ne veulent pas avoir de soucis. Je ne pense pas que beaucoup de fans chercheront des problèmes avec les Russes. Les supporters anglais feront profil bas.
Claude, qu'est-ce qu'on peut dire de ces dispositifs de sécurité donc au moment du début de ce mondial?
Écoutez, j'étais au match Russie-Turquie la semaine dernière, donc à Moscou, et sur les 2 derniers kilomètres du parcours, pour accéder au stade, il y avait un policier tous les 10 mètres de chaque côté des avenues qui conduisent à l'enceinte. C'est totalement dissuasif pour Aliona Mazurenkova, rédactrice en chef à la radio nationale publique russe, Sport FM.
Bon, en peu de statistiques, la Russie occupe la première place pour le nombre de sécurité, de gens de sécurité, pour un habitant. C'est-à-dire que pour un homme, il y a au moins 5 agents de sécurité. Si tu commences à déraper un peu, tout de suite, tu vas être encerclé par les policiers. Les Anglais comme les autres, je pense que c'est la propagande. Sont nous, les journalistes, qui parlent de ça, et les gens normaux qui s'intéressent à la politique, mais sans plus, ils font pas la différence entre en anglais, en français ou un brésilien.
Mais la sécurité lors du mondial en Russie, ce sera aussi tout ce qu'on ne verra pas. Par exemple, ces zones d'exclusion aérienne, au-dessus des stades bien sûr, mais aussi des lieux d'entraînement ou encore de résidence des équipes. Interdiction notamment destinée aux drones.
Claude Brouillot à Moscou pour Un jour dans le monde qui nous fera vivre évidemment ce mondial pendant tout un mois. Merci Claude, voici Fatoumata Diawara sur France Inter. Enterimi. Yorojana, alema, sonze, ima. Diawara sur France Inter.
BBC News, The Zero, CBS Morning News.
France Inter, Public Broadcasting, le 18-20.
Equals more reasons to watch.
Un jour dans le monde.
Et la suite d'un jour dans le monde, c'est la carte blanche des correspondants de France Inter entre Berlin et Bruxelles ce soir. On commence par l'Allemagne. Bonsoir Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Cyril, on va rester un instant sur le foot avec cette histoire avec vous. On sait que l'Allemagne, évidemment, est tenante du titre. Et à l'époque, c'est vrai que, donc en 2014, c'était pas il y a si longtemps que ça, l'équipe d'Allemagne était un peu vue comme notre Black Blamber de 1998. Elle était plutôt très jolie, très multiculturelle. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Le climat a changé en Allemagne. Et du coup, le football aussi, finalement, a changé, ou en tout cas, en est l'illustration.
Oui, l'Allemagne est-elle encore capable de s'unir derrière son équipe nationale 4 ans après ce titre? Les fans de foot, bien sûr, veulent le croire. Mais l'état d'esprit n'est plus tout à fait le même, comme le montre cette polémique assez nauséabonde qui occupe l'Allemagne depuis plusieurs semaines. Une photo prise dans les vestiaires, deux joueurs d'origine turque de la Mannschaft, İlkay Gündoğan et Mesut Özil, qui posent, tout sourire, en compagnie du président turc Recep Tayyip Erdogan. C'était il y a près d'un mois, et depuis, le scandale n'a fait que grossir. À chacune de leurs apparitions sur le terrain, les deux joueurs se font copieusement siffler. C'était encore le cas lors des derniers matchs de préparation. Les supporters en veulent tout particulièrement à Gündoğan, qui a offert un maillot dédicacé à Recep Tayyip Erdogan avec ce petit mot « Mon président ». Une prise de position assez malvenue au moment où l'homme fort d'Ankara brigue un nouveau mandat et cherche à faire campagne en Allemagne où vivent 3,5 millions de Turcs.
Mais du coup, Cyril, l'affaire a pris une vraie tournure politique et Angela Merkel a dû prendre position même.
Et c'était dimanche soir à la télé allemande, la chancelière qui a volé au secours des deux joueurs. « Nous avons besoin d'eux », a-t-elle dit, « pour jouer notre meilleur football ». Mais tout le monde n'est pas aussi indulgent. Pour l'extrême droite, Özil et Gündoğan feraient mieux d'aller jouer pour la Turquie. Quant à l'ancien international Stefan Effenberg, il estime que le sélectionneur Joachim Löw aurait dû carrément les exclure. Les deux joueurs ont-ils fait une grossière erreur ou bien sont-ils victimes du racisme d'une partie des Allemands? Un joueur d'origine polonaise, par exemple, aurait-il été ainsi montré du doigt s'il avait pris position politiquement dans son pays d'origine? C'est l'une des questions soulevées par ce débat qui montre en tout cas le raidissement de la société allemande sur les questions d'identité et d'immigration. Özil et Gündoğan sont nés tous les deux en Allemagne, dans la Ruhr. Ils se disent d'ailleurs choqués d'entendre dire qu'ils ne sont pas intégrés. Pas sûr qu'ils aient complètement convaincu. Il n'y a qu'en jouant bien à la Coupe du Monde et en marquant des buts qu'ils réussiront vraiment à se faire pardonner.
Voilà, il suffit de gagner. Merci beaucoup Cyril Sauvageau à Berlin. Tiens, on prend la route entre Strasbourg et Bruxelles. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Fabienne et bonsoir à tous.
Et pendant que vous roulez entre les deux capitales de l'Europe, Quentin, vous avez dépouillé pour nous un sondage sur un échantillon de 33 000 personnes dans l'Union, donc ça a l'air assez fiable. Un sondage qui nous résume quoi? Que l'optimisme est de retour, c'est ça l'idée?
Oui, en fait, je suis à hauteur de la troisième capitale européenne, c'est-à-dire Luxembourg. Alors oui, ce sondage Eurobaromètre du printemps, selon ce sondage, eh bien, tout va mieux, ou presque. La confiance des citoyens dans l'Union européenne est remontée à 42%. Ce n'est peut-être pas un résultat exceptionnel, mais c'est tout de même le meilleur depuis 8 ans. Évidemment, comme toujours, le niveau varie d'un pays à l'autre. à 66% chez les Lituaniens, suivi des Portugais et des Danois, il s'effondre chez les Hongrois, dont on peut mesurer au passage l'efficacité de la propagande europhobe gouvernementale. Une autre tendance lourde apparaît, partout la confiance dans les 28 gouvernements de l'UE est bien plus faible que la confiance dans l'Union européenne. Donc, autre critère mesuré, l'optimisme quant à l'avenir de l'Europe, et là une curiosité, les plus pessimistes sont les Français, à égalité avec les Britanniques, même les Grecs se révèlent davantage optimistes. Bien sûr, chacun voit midi à sa porte, et Fabienne, cela ne vous étonnera pas vraiment d'apprendre que la situation économique de leurs pays respectifs enchante les Luxembourgeois à hauteur de 93% et déprime les Grecs qui ne sont que 2% à s'en réjouir. Il doit s'agir de pop et d'armateurs exilés à Londres. Le début de guerre commerciale avec les États-Unis a visiblement frappé les esprits. Les deux tiers des Européens réclament de la part de l'UE une politique commerciale mondiale particulièrement ferme.
Donc ça, ce sont des données générales, Quentin. Maintenant, est-ce qu'on arrive à déceler ce que les 500 millions de citoyens européens que nous sommes aiment, n'aiment pas du tout, redoutent ? Qu'est-ce qu'on voit en plus finaux, en fait, en plus fin ?
Oui, bah écoutez, on voit dans les grandes lignes. Ce qu'ils plébiscitent, pour les plus jeunes, c'est la libre circulation des personnes et, accessoirement, des marchandises, des capitaux et des services. Pour les plus âgés, eh bien, c'est depuis 74 ans la paix entre pays européens. Ils citent comme bénéfice personnel offert par l'UE en vrac le téléphone portable sans surfacturation en itinérance à l'étranger, les garanties juridiques pour le consommateur qui achète sur l'Internet un objet ailleurs en Europe et les droits des passagers aériens. L'ordre prioritaire de leurs préoccupations n'est pas identique selon s'ils s'expriment dans le contexte de leur pays ou de celui de l'Europe. Au niveau national, ils s'inquiètent dans l'ordre décroissant d'importance du chômage, des soins de santé et de la sécurité sociale, et enfin des migrations. Au niveau européen, ils redoutent d'abord les migrations, suivies du terrorisme, de la situation économique et enfin du chômage. Ceci n'est pas anodin et paraît indiquer que les citoyens sont nombreux à bien faire la distinction entre ce qu'ils attendent de leur gouvernement et la protection qu'ils réclament de l'Europe.
Et merci beaucoup, Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles. Pour un journal
le 18-20, Fabienne Sintès sur France Inter.
Et l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Anthony, qu'est-ce qui se passe au Nicaragua ?
Eh bien, il se passe presque exactement ce qui se passe au Venezuela, c'est-à-dire un régime dit révolutionnaire issu de la gauche, installé au pouvoir depuis 11 ans, des élections vaines, une opposition muselée et des manifestations populaires réprimées dans le sang. Deux mois de manifestations qui ont d'abord commencé par la capitale et qui aujourd'hui s'étendent à tout le pays. Le régime sandiniste de Daniel Ortega a répondu par des balles réelles, déjà plus de 175 morts et des centaines de blessés. En 10 ans, plutôt 11 ans de pouvoir, eh bien non seulement Ortega s'est installé durablement au pouvoir, donc comme un vulgaire dictateur sud-américain de roman, mais il a installé son épouse au poste de vice-présidente, une vice-présidente qui n'hésite pas à peupler les émissions de télé, comme Nicolas Maduro ou comme Chavez avant elle, en donnant des leçons de bien-être, des leçons d'art et de bonheur au quotidien, et ce dans le pays le plus pauvre d'Amérique latine après Haïti. C'est presque elle, plus que lui, qui est détesté. Lui, il a déçu, et surtout il a nourri les soupçons de corruption généralisée autour de lui.
Donc Anthony, ces manifs, elles sont dirigées avant tout contre le couple au pouvoir.
Oui, et pour le moment, évidemment, pas question de dialogue. L'Église catholique a bien tenté une médiation, mais les dernières manifestations ont fait des dizaines de morts dans les rues de Managua, et les vagues de négociations, les vagues négociations qui avaient débuté ont été évidemment annulées. Comme au Venezuela, en fait, le régime a décidé de s'installer dans une espèce de résidence active, puis passive, en ne comptant que sur les bandes armées et ce qui reste des militants ortéguistes. Un face-à-face sans issue pour le moment, et surtout sans aucune volonté d'en sortir. Après tout, doit penser Ortega et les siens, cette politique mêlant résilience et répression semble réussir à Nicolas Maduro, pourquoi pas limiter et épuiser une opposition qui, pour le moment, n'est ni unie, ni véritablement légitime. Les manifestations restent largement spontanées et seule l'Église semble en mesure de s'interposer, sauf que l'Église n'a pour le moment réussi absolument à rien et ne veut surtout pas perdre le semblant de légitimité qu'elle a durement gagné en condamnant notamment la répression.
Donc ce que vous dites, c'est pour l'instant, rien à faire.
Non, s'il y a un peu d'espoir tout de même, d'abord la société civile a commencé à s'organiser. Une alliance civique pour la justice et la démocratie vient d'être constituée qui rassemble syndicats, patronat, associations et étudiants, bref, le plus large nombre possible. Alors, elle a appelé pour aujourd'hui une grève générale qui semble réussie ce soir afin de s'imposer comme l'interlocuteur indispensable auprès du gouvernement qui, comme au Venezuela, tente des mesures dilatoires comme proposer éventuellement des élections anticipées. Sauf que justement, le Venezuela a servi de leçon et l'opposition refuse toute proposition qui viendrait d'Ortega sans le préalable de sa démission. On en est là et les manifs commencent à s'étendre aux campagnes, pourtant traditionnellement sandinistes. Eh bien, la vraie différence, cependant, avec le Venezuela, eh bien, c'est l'armée. À Caracas, comme à Cuba, elle est au cœur du pouvoir. Au Nicaragua, elle a déjà fait savoir qu'elle resterait en dehors de toute prise de position politique. Les soldats resteront dans leurs casernes. C'est aussi une façon de montrer que 30 ans après le temps des guérillas et des espoirs de gauche en Amérique centrale et du Sud, le problème aujourd'hui n'est plus militaire et de droite, mais bien militant et de gauche.
Anthony Bélanger, merci beaucoup. On y reviendra au Nicaragua la semaine prochaine, probablement dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est la mi-temps. Ce sera le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne aussi.